Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour une émission qui va être à la fois une sorte de portrait et un retour sur un parcours de vie, le parcours de vie d'un homme d'Église qui aura beaucoup voyagé et vécu sur plusieurs continents. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque émérite de Basse-Terre en Guadeloupe. Bonjour Monseigneur, merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce numéro Vivante Église et de venir à Radio Présence alors que vous êtes de passage à Toulouse. Et je crois savoir que ce n'est pas la première fois non seulement que vous venez dans la Ville Rose, mais aussi à Radio Présence. Vous connaissez bien notre radio.
Oui, parce que quand j'étais prêtre à Paris, puis ensuite évêque à Pontoise, j'étais avec Radio Notre-Dame et puis le réseau que l'on appelait la COFRAC, et alors avec Radio Présence. Et un souvenir aussi très, très fort, c'est celui justement où le pape Jean-Paul II était à Lourdes, et donc Radio Présence, Toulouse, Lourdes, avait retransmis cette visite, et aussi celle de Benoît XVI quand il est venu dans la région, et puis moi-même je suis venu très régulièrement ici à Toulouse.
Donc de nombreux souvenirs à Toulouse et sur Radio Présence. Monseigneur, vous êtes une sorte de globe-trotteur de la vie ecclésiale. Vous êtes né dans le département de la Loire, vous avez été ordonné prêtre en 1974, après un premier cycle au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux, et un second cycle aux États-Unis au St. Mary's Seminary and University de Baltimore. Vous avez été successivement vicaire à l'église du Vœu de Nouméa en Nouvelle-Calédonie et curé de la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa. Puis vous êtes revenu en France métropolitaine pour être aumônier des étudiants de l'Institut catholique de Paris, curé doyen de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes et Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, toujours à Paris. Entre 2001 et 2003, vous avez été recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et vous avez été nommé ensuite et consacré évêque de Pontoise en 2003, ministère que vous allez exercer jusqu'en 2012. Vous avez enfin été nommé évêque de Basse-Terre en Guadeloupe de 2012 à 2021. Ce parcours qui vous aura mené sur trois continents et parfois très loin de votre pays natal, l'avez-vous voulu ou s'est-il imposé à vous au gré des circonstances?
Ah, c'est complètement au gré des circonstances. Le premier contact à l'extérieur de la France, bien, ce fut justement la Nouvelle-Calédonie pour y accomplir les obligations à l'époque militaire, mais c'était dans un service civil, au service de l'Église. Et puis c'est à ce moment-là que la vocation s'est affirmée et s'est affirmée. Et puis, donc, quand je suis rentré au séminaire de Paris, Saint-Sulpice, qui est sinon original, mais classique, on va dire, puisque c'est un séminaire qui avait un grand rayonnement à l'époque. Et puis ensuite, il y a eu des circonstances qui, effectivement, m'ont amené donc, pour poursuivre les études aux États-Unis, parce qu'il y avait déjà cette perspective aussi de retour en Nouvelle-Calédonie, et la connaissance de la langue anglaise donc, était précieuse. Et puis après, les circonstances m'ont amené à découvrir beaucoup l'Océanie, d'une part. Et puis après, quand je suis revenu comme prêtre à Paris, on va dire, je ne connaissais pas l'Europe. Alors j'ai dit, on va découvrir l'Europe. Et enfin, donc, je disais avec humour, il y avait une région du monde que je ne connaissais pas particulièrement, c'était les Caraïbes. Et Benoît XVI m'a nommé dans ce diocèse de Guadeloupe aux Antilles. Et ce fut une expérience intéressante. Oui, effectivement, on l'a dit, trois continents. Et ce sont les circonstances et l'obéissance, puisque quand on est ordonné prêtre, on obéit à son évêque, et puis on obéit au pape quand on est nommé évêque. Et puis, généralement, quand on est nommé évêque, c'est pour un diocèse, on reste dans son diocèse, et les circonstances ont fait que j'ai pu découvrir et être évêque aux Antilles. Et je reviens de Lourdes, où j'étais avec les évêques de l'Outre-mer. C'était une grande joie aussi de retrouver l'archevêque de Nouméa, l'archevêque de Tahiti, les évêques des Antilles, et de vivre ce qui est la catholicité et l'Église universelle.
Quels sont les souvenirs marquants que vous gardez de votre presque demi-siècle d'engagement religieux, que ce soit en tant que prêtre ou en tant qu'évêque? Alors ça peut être des événements, ça peut être des rencontres, ça peut être des
relations humaines en général. Il y en a tellement, je n'ai que l'embarras du choix. C'est le service de l'Église, c'est le service d'être dans une communauté, dans une paroisse. Vous avez nommé Nouméa, bien après Paris. J'ai été très heureux d'être les jeunes. J'ai été très heureux d'être avec un peuple très divers. divers, par exemple la Nouvelle-Calédonie, dont on a beaucoup parlé, parce que c'est un pays à la fois très riche par sa diversité et très complexe aussi, et puis avec par les aspects politiques. Et donc, j'ai découvert beaucoup de personnes, j'ai dans la mémoire des centaines et des centaines de visages, de personnes quelquefois très simples, mais qui m'ont émerveillé par leur foi, par leur engagement dans l'Église. Et on vient de célébrer la fête de tous les saints, c'est cette rencontre avec les saints de la porte d'à côté, comme disait le pape François, ou la sainteté ordinaire, bien c'est cela qui m'a marqué. Et puis la personnalité aussi, parce que j'ai pu vivre tout le pontificat de Jean-Paul II, c'est-à-dire comme jeune prêtre, puisqu'il a été élu en 1978, jusqu'à sa mort en 2005, en le rencontrant bien sûr à Rome, en France, y compris aussi dans un pays qui est proche de la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle les îles Salomon, près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'était extraordinaire, parce que le soir de cette visite, c'était une journée à Honiara, sur l'île de Guadalcanal, il y avait deux avions, l'avion du pape qui le ramenait à Port Moresby, et puis l'avion qui nous ramenait à Nouméa. Et puis il était heureux, nous étions heureux, et il était probablement à l'endroit le plus éloigné qui soit de Rome, et nous l'avions rejoint. C'est des expériences inoubliables de cette vie de l'Église catholique, ça veut dire universelle. Alors, j'ai vécu cette universalité, cette catholicité d'une manière très forte, d'abord dans le Pacifique, et puis après, bien sûr, à Paris. Un des plus grands souvenirs aussi pour moi, à Paris, quoi, lorsque je suis curé de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes, c'est l'organisation des Journées mondiales de la jeunesse avec les jeunes qui venaient de tous les continents. Et puis j'avais la responsabilité, comme aumônier des Océaniens, d'accueillir ceux qui venaient des îles du Pacifique. Ils étaient venus à 1000 de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Tahiti, de Wallis et Futuna, et bien sûr de la Nouvelle-Calédonie. Et les accueillir et puis voir cette rencontre entre les paroissiens du 17e arrondissement qui les accueillaient chez eux, et puis ces jeunes qui venaient apporter leur joie de participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Paris, les plus anciens s'en souviennent, et qui ont été suivis des autres JMJ, on se souvient aussi, puisque nous venons d'en parler à Lourdes, du rassemblement des jeunes qui a eu lieu à Rome pour cette année jubilaire dans laquelle nous sommes. Alors après, comme évêque, eh bien évêque, c'est encore autre chose, si on peut dire. C'est bien sûr d'abord une ordination, vous l'avez mentionné, à Pontoise, très précisément le 29 juin 2003, et un évêque est envoyé vers un peuple qu'il ne connaît pas, et qu'il va découvrir, et qu'il accueille merveilleusement. Et on apporte ce que l'on est, c'est-à-dire successeur des apôtres, celui qui est là pour la communion dans l'Église, qui reçoit les insignes de l'épiscopat, c'est-à-dire l'anneau pour dire cette alliance avec l'Église, la mitre pour dire que c'est la sainteté de Dieu qui est dans la personne de l'évêque, mais qui rejaillit sur tout le peuple de Dieu. Et puis le bâton de pasteur, alors on prend son bâton de pasteur et puis on va rencontrer tout le peuple de Dieu dans sa diversité. Et le diocèse de Pontoise se caractérisait aussi par une très grande diversité géographique, puisqu'il y a même la campagne, c'est déjà le Vexin près de la Normandie. Et puis, et il y a bien sûr cette réalité urbaine, et puis donc dans ce développement de cette banlieue parisienne au nord-ouest de Paris. Et après, bien sûr, pour poursuivre cette mission, partir aux Antilles, là c'était un grand défi. Mais il n'y avait pas d'évêque depuis de nombreuses années en Guadeloupe, et puis on m'a demandé est-ce que vous accepteriez. Ben, j'ai dit l'obéissance, et je suis prêt à partir encore plus loin pour découvrir là une autre réalité. Et je pense en cet instant à tous ceux qui nous écoutent, qui sont originaires de ces îles, parce que je sais qu'il y a des Wallisiens, qu'il y a des Calédoniens, qu'il y a de nombreux Antillais, qu'il y a des Réunionnais qui sont là dans cette, et qui viennent apporter leur présence. Ils sont venus pour de multiples raisons, mais ils sont là aussi pour vivre en Église. Alors ça répondra peut-être à votre question, et tellement de souvenirs.
Oui, alors il y a aussi une question que je me pose. Est-ce que votre foi et votre rapport à Dieu et aux hommes
oui.
ont beaucoup évolué durant votre parcours au sein de l'Église et des diocèses que vous avez connus. J'imagine que oui.
Ah oui, bien évidemment, évidemment. Quand je repense à, donc au temps de, où j'étais étudiant et puis que je découvrais l'appel de Dieu, que j'entendais cet appel de Dieu, et jusque maintenant, 50 ans plus tard, c'est-à-dire comme prêtre, eh bien, on est appelé à grandir dans la foi, à approfondir sa foi. Et cette relation qui est toujours quotidienne et qui est aussi dans des grands moments, des moments des fois très intérieurs, et puis des moments où là, c'est l'explosion, on va dire, dans la vie de l'Église, et je pense aux grandes liturgies. Souvent, il m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux en étant tout simplement dans une célébration pour une circonstance particulière ou tout simplement pour des confirmations, par exemple, et d'entendre cette parole dite juste avant l'Eucharistie. Heureux ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau, bien c'est cela, puisque l'Eucharistie, c'est le centre, la source, et le sommet de la vie de l'Église, comme le disait Vatican II, et c'est, bien sûr, pour un prêtre tout particulièrement, et pour un évêque, puisqu'un évêque, c'est celui qui préside les célébrations eucharistiques, et puis qui a cette responsabilité aussi d'assurer principalement la confirmation et les ordinations. Alors les ordinations, ça, ce sont des grands moments, et je dis ça ici, à Toulouse, en pensant aux jeunes que j'ai rencontrés, originaires de Guadeloupe, ou pour certains de Haïti, qui ont été formés ici, au séminaire de Toulouse, qui ont vécu leur formation ici, au séminaire Saint-Cyprien, qui est à côté de ces studios, et puis à les ordonner, cela fait un lien aussi particulier avec ceux qui ont entendu eux-mêmes l'appel, et puis qui se sont formés pour être prêtres, et c'est aussi une des constantes dans la vie d'un évêque, c'est d'avoir des prêtres, des diacres, pour le service de l'Église.
Lorsqu'on est envoyé, comme vous l'avez été, c'est souvent loin de sa terre natale, on peut être confronté à certaines réalités humaines, des façons de penser, des façons de vivre auxquelles on n'est pas toujours préparé. Est-ce qu'il y a pu y avoir comme ça des moments difficiles ou des difficultés à aborder certaines communautés, certaines paroisses?
Oui, il y a des difficultés, puis on sent quelquefois, donc, on est moins attendu dans certains endroits qu'à d'autres. Parce qu'en plus, il peut y avoir des perceptions en disant, je pense surtout au ministère épiscopal, l'évêque il est comme ci, comme ça. Puis il faut, sinon apprivoiser, mais montrer qu'on est là pour tous. Il y a cette expression aussi du pape François, todos, 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 c'est-à-dire tous. Et le prêtre dans sa paroisse ou l'évêque dans son diocèse, il est là pour tous. Alors on peut avoir des affinités, des perceptions, mais il faut les garder pour soi, pour justement bien montrer qu'ils sont tous dans le cœur du pasteur, puis donc avec les difficultés, mais je pense bien sûr en Nouvelle-Calédonie, puisque je me trouvais là dans les années 1980 et jusqu'en 1986, au moment difficile où il y a eu des morts. Là, c'est des grandes épreuves que j'ai connues pour accompagner des familles qui ont perdu deux jeunes, un jeune Kanak, un jeune Européen, qui ont été tués, qui sont des victimes innocentes. Et on participe à cette compassion auprès des familles. Et puis, on est là, quelquefois, on ne sait pas trop ce qu'on peut dire, ce qu'il faut dire, mais on se laisse aussi conduire par l'Esprit-Saint qui nous dit, c'est Jésus lui-même qui nous le dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit vous inspirera les mots qu'il faut pour témoigner et pour accompagner le peuple de Dieu.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir le mal du pays quand vous étiez à des milliers de kilomètres de votre Loire natale ou même de Paris?
Ah, bonne question. Mais je revenais régulièrement. Oui. Parce que quand je suis parti pour la première fois, je dois vous le dire, j'avais 21 ans. Et puis mes parents, qui étaient vraiment des catholiques, famille nombreuse et exemplaire, et puis une famille très unie, j'ai dit, je pars pour 2 ans. À l'époque, 2 ans, ça me paraît loin. Et puis, ils étaient en pleurs, et moi aussi, mais est-ce qu'on se reverra? Et à partir de là, on communique à l'époque par lettre, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas Internet. Et on est loin, mais Je pense aux missionnaires, j'ai beaucoup travaillé cette question des missionnaires qui sont partis en Océanie, en particulier au milieu du 19e siècle. Eux, ils partaient pour la vie et ils partaient pour des voyages qui duraient des mois. Et ils allaient vers un peuple qu'ils ne connaissaient pas. Moi, j'arrivais dans cette Nouvelle-Calédonie que je ne connaissais pas, que j'ai découverte et que j'ai tellement aimé, puisqu'après j'ai décidé d'être prêtre pour la Nouvelle-Calédonie. Et on retrouve une autre famille. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, pour répondre aussi à votre question, ce n'est pas simplement le mal du pays, mais c'est au contraire la joie d'avoir amené des personnes que j'ai connues là-bas, qui sont venues, y compris puisque j'ai plusieurs filleuls. On peut être parrain quand on est prêtre diocésain, et j'ai plusieurs filleuls en Nouvelle-Calédonie. Mais la famille s'est agrandie. Et cette famille, qui était la mienne, ma famille dans laquelle je suis né, s'est agrandie aussi par tous ceux que j'ai amenés. Et c'est la famille de l'Église. Alors, il ne faut jamais avoir ni la nostalgie de son pays, mais vivre l'instant présent et en communion avec tous ceux qu'on aime.
Aujourd'hui, où vivez-vous et à quoi ressemblent vos journées?
Ah, la bonne question aussi. Quand, à 75 ans, un évêque remet sa démission au pape, c'est normal, et à ce moment-là, il choisit l'endroit où il veut donc prendre sa retraite. Alors, il y a plusieurs formes de retraite. Il y a des retraites active ou des retraites plus...
Dans la prière.
Dans la prière, ça, on prend, mais on prend plus de temps pour la prière. Oui. Ça, c'est une réalité que j'ai découverte aussi. J'entendais encore un vieux cardinal, le cardinal Etchegaray, qui est connu dans la région. Oui. Et il me dit, ah, mais maintenant j'ai 80 ans, vous savez, j'ai la prière, on prie davantage. Mais c'est un petit peu cela, d'une part. Et puis d'autre part, j'ai répondu à une invitation en 2021, quand j'ai quitté la Guadeloupe, à l'invitation de l'évêque du diocèse de Saint-Denis, un diocèse donc au nord-est de Paris, qui est un diocèse populaire, on va dire, et puis avec peu de prêtres, et donc j'ai dit, si je peux rendre ce service, et j'étais à Pantin, Aubervilliers, donc dans des secteurs très populaires, et puis au bout de 3 années, pour différentes raisons aussi, l'évêque de Saint-Étienne, diocèse dans lequel je vis maintenant, m'a invité, m'a dit, ben voilà, si tu peux être en paroisse, ce serait bien, tu aiderais un prêtre. Et comme un évêque reste évêque, bien sûr, on ne sort plus ni sa crosse ni sa mitre, on célèbre comme un prêtre, sauf pour certaines occasions, et puis certaines missions qui me sont confiées. Alors je vais régulièrement à Paris pour des missions très particulières, celle de la béatification ou de la préparation de dossiers pour la béatification d'un prêtre et d'une laïque. Et donc c'est aussi ces auditions que je fais à Paris. Et on peut participer aussi à l'Assemblée des évêques à Lourdes, ce qui a été le cas la semaine dernière.
Une retraite très active donc. Eh bien, selon notre habitude à Vivante Église, nous allons faire maintenant une pause musicale dans cette émission avant de poursuivre notre conversation. Nous allons y aborder notamment les pratiques religieuses dans les dom-toms et plus largement votre conception du dialogue interreligieux. Pour se mettre un peu dans l'ambiance, je propose que nous écoutions Henri Salvador et sa chanson « Dans mon île ».
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse. Et l'on paraisse sans songer à mon île, un parfum. la cour me tendant ses bras de cils douce et fragile dans ses plus beaux atouts, ses yeux brillent et ses cheveux bruns s'éparpillent sur le sable fin. Et nous jouons au jeu d'Adam et Ève, jeu facile qu'ils nous ont appris. Car mon île, c'est le paradis.
Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne où nous retrouvons Monseigneur Jean-Yves Rieucreux, évêque émérite de Basse-Terre en Guadeloupe. Nous avons évoqué votre parcours et vos différents ministères en première partie d'émission, les divers diocèses où vous les avez exercés. Je voudrais qu'on s'attarde un peu plus maintenant sur vos années passées en Nouvelle-Calédonie, à vos débuts dans la prêtrise, puis celle où vous avez été évêque en Guadeloupe, très récente celle-ci. Comment vous définiriez la foi et la pratique religieuse dans ces îles, pour reprendre le titre de la chanson d'Henri Salvador, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont bien spécifiques et vraiment différentes de celles que nous connaissons en Europe ?
Oui, parce que bon, c'est une question de culture aussi et d'histoire. Quand en 21 ans, je suis parti en Nouvelle-Calédonie pour découvrir une réalité, celle de l'Église en Océanie, avec ses peuples très divers, qui sont mélanésiens, polynésiens, et aussi ces peuples venus de l'extérieur, et puis surtout de se rendre compte de l'histoire. Mais au-delà de la différence, ce qui m'a tout de suite impressionné, c'est au fond qu'on partage la même foi. Alors, elle s'exprime de différentes manières, et je pense, pour faire cette fois-ci un retour vers la Guadeloupe, c'est-à-dire de l'autre côté, dans l'océan Atlantique. Et là, quand j'arrive en Guadeloupe, que je ne connaissais pas, mais j'étais allé très souvent en Afrique. Je connaissais les Antilles, bien sûr, il y en a partout, et notamment dans le diocèse de Pontoise, où j'étais évêque. Et j'arrive cette fois-ci dans une réalité, et qu'est-ce que je vois ? Les premières messes, je vois d'abord la beauté des liturgies, tout le monde s'habille, ils chantent avec force, et non seulement ils chantent, mais ils dansent, comme en Afrique. Et à ce moment-là, j'ai découvert aussi la complexité, parce que, pour des raisons que l'on peut comprendre, bien sûr, ce qui s'est passé au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'esclavage. Donc, le lien qui s'est rompu avec l'Afrique, mais néanmoins les racines culturelles qui sont communes et qui donnent des très belles figures de chrétiens, d'une part, et puis une vie d'église qui est très particulière. Et nous en avons parlé encore à Lourdes avec les évêques d'outre-mer, puisqu'ils participent à l'Assemblée des évêques. Cette vitalité des communautés chrétiennes dans tout l'outre-mer, et qui apporte aussi leur présence parce qu'ils sont ici en métropole ou dans l'Hexagone et qui apportent ainsi leur joie de croire, leur joie de vivre en Église. Et là, en plus, quand dans le contexte d'une 93 où j'ai été pendant 3 années, de voir Africains, Antillais, Indiens qui viennent participer à la vie de l'Église et qui y participent avec enthousiasme,
ferveur.
Avec ferveur, et en faisant aussi ce qu'on ne trouve plus maintenant. Autrefois, on s'habillait pour le dimanche, mais là, ils viennent, et ils viennent avec leur habit locaux, et puis pour reprendre aussi ce qui est vécu chaque année le 11 novembre à Paris pour la messe des Antillais guyanais en l'église Saint-Sulpice, qui est remplie vraiment de d'Antillais, de Guyanais, et cette année d'ailleurs avec les Réunionnais, pour dire aussi cet enrichissement qu'apportent les chrétiens de tout l'outre-mer, que ce soit de l'Océanie, que ce soit de l'océan Indien ou de l'océan Atlantique. C'est aussi une réalité que celle qui est liée d'ailleurs à l'histoire et à notre pays, et dont j'ai eu le privilège de connaître en étant à la fois en Nouvelle-Calédonie prêtre et ensuite évêque en Guadeloupe.
Est-ce que vous avez dû adapter votre approche personnelle de la foi, votre discours, votre enseignement, pour entrer pleinement en relation avec vos paroissiens quand vous étiez en Nouvelle-Calédonie ou aux Antilles ?
Bien sûr, oui, bien sûr, il faut parler...
Ça, c'est peut-être vrai partout, d'ailleurs.
C'est vrai, il faut connaître, il faut... La première chose, je crois, qu'ils attendent, c'est de savoir qu'ils sont aimés. Et pour moi, vous m'avez demandé dans la première partie, est-ce qu'il y avait une volonté de faire cela ? Non, si on m'avait dit il y a 50 ans, donc j'étais parti pour être prêtre en Nouvelle-Calédonie, donc en Océanie. Mais après, s'il y avait eu ce parcours, y compris à Paris, et notamment dans ces deux années qui ont été celles à Notre-Dame de Paris, mais on s'adapte et c'est le même évangile, c'est le même évangile. Alors bien sûr, l'évangile qui est annoncé au bout du monde, qui est annoncé en Europe, qui est annoncé, eh bien, c'est l'évangile que nous a donné le Christ et que nous avons annoncé, cette parole, que Dieu nous aime et que nous sommes aimés par Dieu et que nous voulons nous aimer. Et c'est l'expérience de la communauté chrétienne que nous faisons presque au quotidien.
Est-ce qu'il y avait à la Guadeloupe ou en Nouvelle-Calédonie, vous avez évoqué les aspects culturels oui. auxquels vous avez pu être confronté, est-ce qu'il y avait des croyances, des traditions, des coutumes qui viennent parfois se mêler au christianisme tel qu'on le pratique chez nous, en Europe, en France, et avec lesquels il faut comprendre.
Mais je vais reprendre votre mot, le coutume. Quand vous arrivez en Nouvelle-Calédonie, en Miyokanak, on parle tout de suite de la coutume. On dit, mais qu'est-ce que c'est la coutume ? La coutume, c'est d'abord un mode de relation. Quand on arrive, on se présente et on fait la coutume. C'est-à-dire, on apporte un cadeau et on l'accompagne d'un discours. Nous ne sommes pas habitués. On se dit, bon, bonjour, bonjour, comment tu vas ? Mais là, c'est plus rituel. Et puis, ça se fait dans un recueillement. Et je pense aussi aux Maoris de Nouvelle-Zélande. Puis j'ai fréquenté assidûment ce pays des antipodes. Les Maoris, c'est extraordinaire, les coutumes. Et avant de se... On échange des chants, des paroles. Et après, on se salue avec la particularité en pays maori. On met le nez oui. sur le nez, de, ça s'appelle le hongi. Et vous faites ça, alors quand on voit ça la première fois, on a dit, qu'est-ce que c'est ces coutumes ? Eh bien, ce sont des coutumes qui sont très, très anciennes. Et chez les Océaniens, on va dire en général, ou les Africains, il y avait ce que les pères de l'Église appellent les semences du Verbe. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une attente de l'annonce du Christ et qui permettait... L'évangélisation, c'est comme ça que ça s'est fait pour la Nouvelle-Calédonie, avec les catholiques et avec les protestants. Alors, dans le contexte du 19e siècle, ce n'était pas l'œcuménisme. Maintenant, les temps ont changé. On peut dire que ces terres sont aussi très marquées par le christianisme, et très, alors avec bien sûr les évolutions que l'on connaît là-bas comme ici, mais néanmoins en sachant qu'il y a cette diversité. Et puis, vous avez repris les coutumes, bien sûr, et tout ce qui concerne, par exemple, et c'est ça qui est très fort au moment des deuils. Vous voyez, les deuils, c'est comme en Afrique, on est présent, nous les deuils, bien sûr, on le vit, ben, la mort, elle est pour tous, mais elle se vit aussi dans l'espérance et dans des traditions qui sont très belles, qui permettent d'accompagner ceux qui sont dans le deuil et de savoir qu'on pense à ceux qui nous ont quittés, comme on le fait chaque année au mois de novembre.
Je voulais aborder aussi avec vous un autre sujet. Vous avez été très actif sur le front du dialogue interreligieux, entre autres quand vous étiez évêque à Pontoise. Jacques Chirac, lorsqu'il vous a décoré de la Légion d'honneur, puisqu'on vous a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur en 2007, et c'était Jacques Chirac, il vous a rendu honneur en parlant de celui qui anime avec conviction le dialogue interreligieux. Ce sont ses propres mots. Quelle est votre conception de ce dialogue entre les religions et comment l'avez-vous animé lors de vos différents ministères ?
J'ai été nommé au conseil de dialogue interreligieux de la conférence épiscopale peu de temps après ma nomination comme évêque de Pontoise. Pour une raison très simple, parce que dans le département du Val d'Oise, il y a beaucoup de musulmans et aussi beaucoup de juifs, ce qui m'a amené d'ailleurs à avoir de nombreux contacts et des contacts, on va dire, dans les visites pastorales. Quand je faisais une visite pastorale à Argenteuil ou à Villiers-le-Bel, eh bien, je rencontrais des musulmans. Quand j'allais à Sarcelles, je rencontrais des juifs. Et il y avait toujours aussi ce respect et ce dialogue qui est nécessaire. Alors, bien sûr, il y a ce qui est commun et puis ce qui est différent, mais le dialogue interreligieux dont on a souvent parlé au plus haut niveau, et je pense en particulier au geste très fort de François quand il est allé et quand il a préparé en quelque sorte aussi son encyclique à partir des pays qu'il avait visités, dans les pays musulmans, et je pense à Abu Dhabi et au Maroc, pour publier ensuite Fratelli Tutti, pour dire, c'est le message aussi que nous, chrétiens, c'est la fraternité qui pour nous s'enracine dans notre foi au Christ, le Fils de Dieu qui nous fait tous enfants de Dieu, enfants d'un même Père, comme nous le disons dans notre Père, ou avec nos frères qui croient en Dieu. Et je pense en particulier, puisque tu sais aussi des liens très forts avec nombre de personnalités juives, y compris le grand rabbin de ce pays, avec lequel on se retrouve, mais en vraie amitié, en vraie fraternité. Alors après, dans le quotidien, c'est quelquefois plus compliqué, mais la responsabilité de l'Église, c'est dire que le dialogue interreligieux est extrêmement important et la fraternité qui s'enracine pour nous dans le Christ.
Alors vous avez aussi toujours dénoncé les persécutions dont étaient victimes les chrétiens d'Irak, les Chaldéens,
oui.
Donc une des communautés chrétiennes les plus anciennes du monde. Et vous avez notamment accueilli, lorsque vous étiez avec de Pontoise, oui. Dans votre diocèse, oui. Donc à Pontoise et à Saint-Denis, vous avez accueilli plus de 1300 familles chaldéennes.
Oui, alors les Chaldéens, ceux qui arrivent de Turquie et d'Irak, ce sont ces communautés qui se sont constituées à partir des années 90 et qui sont arrivées dans le nord de Paris, dans la région principalement de Sarcelles. Et ils ont construit une église. Ils ont construit une église, eux qui venaient de l'extrême est de la Turquie et qui ont été obligés de partir. Ils sont arrivés pour certains à Istanbul, et puis après quelques temps, mais ils ont fait des regroupements, et ils sont près de 20 000 dans cette région, donc dans le diocèse de Pontoise. Ils ont construit même une nouvelle église. Alors j'étais très sensibilisé. Je suis allé souvent en Turquie, je ne suis pas allé en Irak, mais on parlait de l'Irak, et en particulier quand il y a eu cette période très difficile, il y a 10 ans donc, de guerre. Et ils sont très sensibles, et là aussi, ma première messe avec les Chaldéens, inoubliable. Dans la vieille église de Saint-Pierre-Saint-Paul de Sarcelles, alors j'ai en face de moi, donc tous ces Chaldéens, alors donc il y avait le prêtre qui traduisait pour les plus anciens qui parlent plus ou moins le français, et je leur ai adressé simplement, vous qui êtes de cette église fondée par Saint Thomas, l'apôtre, et je suis comme successeur des apôtres, et je vais vous dire que vous êtes ici, chez vous. Et j'ai entendu les applaudissements, et un des responsables de la communauté, il m'a simplement dit, on voit que vous nous aimez et nous voulons vous dire que nous vous aimons. C'était un des moments les plus bouleversants de,
oui,
ma, vie, de ma vie de jeune évêque, puisque j'arrivais, ouais. Et que je ne connaissais pas cette communauté particulièrement, qui sont très présents, très, très actifs. Et ils montrent aussi la diversité de l'Église, par ces églises orientales, qui sont antérieures à l'Église née en France au 3e ou 4e siècle, puisque eux, c'est la tradition avec la prière du Notre Père ou la prière de l'Eucharistie, les paroles de la consécration, qui sont dites dans la langue même du Christ. C'est cette richesse que nous avons avec nos frères chrétiens d'Orient et que nous soutenons de toute notre force par notre prière et aussi par notre accueil et notre générosité.
Vous avez vécu aussi un événement douloureux alors que vous étiez évêque de Pontoise. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent s'en rappellent. Mmh. Ce sont ces émeutes urbaines, hein, oui. Qui avaient eu lieu à Villiers-le-Bel en 2007. et vous aviez célébré la messe de Noël. Et vous aviez dit à tous ceux qui assistaient, paix à nos quartiers, paix à nos familles, paix au monde. Oui. Et là, on voit bien le rôle réconciliateur, pacificateur que peut jouer un évêque entre les communautés et pas seulement entre les communautés chrétiennes.
Oui, lorsque ces deux jeunes sont morts dans des circonstances dramatiques et ça a été une flambée de violence dans les jours qui ont suivi, j'étais en retraite avec les prêtres. J'ai immédiatement pris le chemin du diocèse pour être là, tout simplement. Nous étions à quelques semaines de la fête de Noël. J'ai dit, je viendrai. Et effectivement, c'était une manière de montrer à cette communauté de Villiers-le-Bel que j'étais présent avec eux. Puis j'ai lancé cet appel pour la paix qui a été bien sûr aussi répercuté mais médiatiquement parce que c'était la messe de Noël dans cette ville qui avait vécu ces violences. Et c'était une manière de dire qu'on est là, c'est le message de paix que l'on apporte. En plus, la nuit de Noël, c'est la nuit de la paix. Gloire à Dieu, paix aux hommes de bonne volonté.
À ce propos, pour être un peu plus dans l'actualité, qu'est-ce que vous pensez des tensions actuelles entre le monde musulman et l'Occident chrétien? Quel rôle peut jouer l'Église, un homme d'Église, au milieu de tout ça?
Alors, on le fait à son niveau.
Et chacun son niveau.
Chacun son niveau. Ce qu'il y a d'extraordinaire, nous sommes à quelques jours de la visite du pape Léon en Turquie, et au Liban. Et on suivra cela avec attention, outre le fait que c'est son premier voyage.
D'autant plus, on va le suivre avec attention.
Connaissant bien ces deux pays, et notamment le Liban, où je suis allé maintes fois, avec cette phrase de Jean-Paul II à propos du Liban, le Liban, c'est pas simplement un pays, mais c'est un message de fraternité qui vivait jusqu'à il y a 50 ans, cette fraternité réelle entre chrétiens, principalement maronites, mais aussi d'autres églises chrétiennes, rattachées à Rome ou orthodoxes, et puis le monde musulman. Et puis après, tout ça a été aussi très, très bousculé. Quant à la Turquie, le pape vient bien sûr parce que c'est le 17e centenaire du concile de Nicée. Il va venir, mais il va être accueilli par le président Erdogan. Et ensuite, il va se rendre à Istanbul pour être avec le patriarche Bartholoméo que nous avons accueilli à Lourdes lors de notre assemblée des évêques. C'est un moment magnifique, montrant aussi cette proximité entre catholiques et orthodoxes, et ensuite, bien sûr, en pensant à tous ceux qui partagent d'autres religions, comme je le disais à l'instant.
Vous venez d'évoquer le pape Léon XIV, et je propose qu'on termine cette émission avec lui et avec son exhortation apostolique d'illexité, qu'il a récemment fait paraître. La place des pauvres dans l'Église y est centrale. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce texte
bien
en partie
sûr.
Ou en totalité.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous inspire?
Il nous inspire d'abord que c'est une continuité, paradoxalement, avec Dilexit Vos, l'encyclique Nos, oui. sur le Sacré-Cœur, pour faire court, publiée par le pape François peu de temps avant sa mort. Et il avait déjà préparé dans sa tête, ou du moins avec ses collaborateurs, une lettre pour continuer, et puis il avait déjà choisi les mots. C'est les mots toujours bibliques, hein, dilexit vos et dilexit te, un passage de l'Apocalypse. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette exhortation apostolique, c'est de voir d'abord sa partie, la première partie qui est une partie christologique, c'est-à-dire pour parler du Christ pauvre, et qui a toujours été avec les pauvres, et qui nous appelle justement à cette attention aux pauvres. Et cette, après l'encyclique, on pourrait dire que c'est comme l'invitation à la mise en acte de l'encyclique, mais cette fois-ci dans le quotidien, de multiples manières. Personne ne peut dire qu'il est chrétien s'il n'aime pas son frère ou s'il parle mal de son frère. C'est cette invitation qui est faite à travers l'exhortation apostolique que le pape Léon a publiée il y a quelques semaines.
Merci infiniment d'être passé nous voir à Radio Présence, Monseigneur Riocreux. Ça a été un plaisir de faire cette émission en votre compagnie et de revenir sur votre parcours de prêtre et d'évêque en Nouvelle-Calédonie, à Paris et à Pontoise, et enfin à Basse-Terre, en Guadeloupe. On salue tous les Antillais, les Néo-Calédoniens qui nous écoutent. Une vie au service de Dieu et de vos paroissiens. Je remercie également Yannick Galupini qui a réalisé ce numéro de Vivante Église. Merci de votre fidélité à notre écoute. À bientôt.
Et que Dieu vous bénisse.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.